Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2, 1.
La radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7 heures minuit, alors je suis pas bon.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Mardi 5 mai 2026, il est 6 heures avant minuit, vous écoutez l'émission d'info locale de Syllab, quelle belle idée. Vous nous écoutez peut-être sur le 88.4 à Rennes, mais aussi sur Radio Bois dans le reste de la Bretagne. Merci à vous. Depuis hier, une pièce suffit pour manger dans les restaurants universitaires français. 1 euro le repas au Crous pour tous les étudiants et étudiantes, et plus seulement pour les boursiers et boursières. J'en ai vu certaines en profiter ce midi au Crous de Rennes. C'était bon ?
C'était très bon.
Vous en avez... Est-ce que c'était encore meilleur ?
C'est encore meilleur.
C'est succulent.
Certains et certaines redoutent une trop forte affluence dans les restaurants universitaires à cause de cette mesure. Vous en pensez quoi ?
Bah aujourd'hui, non, ça allait. Hein.
J'avoue, aujourd'hui, c'était plutôt vide. Hein.
Ouais.
Peut-être en septembre, ça reprendra. Dans tous les cas, ça reste une bonne chose, si je comprends bien.
Ça régale.
Dans tous les sens du terme. Tout de suite, le flash de Roman.
Trêve contre trêve, cette nuit Poutine décrète un cessez-le-feu les 8 et 9 mai. En réponse, Zelensky annonce sa propre trêve dès minuit alors qu'il était en visite à Bahreïn pour discuter d'une coopération en matière de sécurité. Estelle revient sur ces deux cessez-le-feu à des dates différentes.
Il annonce un cessez-le-feu sans cesser de bombarder. Hier, Vladimir Poutine a assuré rompre les hostilités pour 2 jours. Et malgré tout, les frappes continuent de s'abattre. Dans la nuit de lundi à mardi, l'armée russe a lancé 11 missiles balistiques et 164 drones dans les régions de Kharkiv, Zaporijja et en périphérie de Kiev. Et les frappes russes ne se sont pas arrêtées là. Dans la journée d'hier, elles ont fait au moins 14 morts et près de 60 blessés, selon le ministre de l'Intérieur ukrainien. Côté russe, plusieurs régions ont été visées par des attaques de drones ukrainiens jusqu'à Moscou. Dans la région de Kirichi, une raffinerie de pétrole a été touchée. Plus à l'est, l'Ukraine affirme avoir lancé dans la nuit des missiles de croisière contre une usine de défense en Tchouvatchi. La Russie a de nouveau été visée par des drones ce matin, selon les autorités locales.
Alors pourquoi la trêve arrive maintenant ?
La trêve prévue les 8 et 9 mai est pour célébrer la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie en 1945. Chaque année, la Russie commémore cette date avec un grand défilé militaire sur la place Rouge à Moscou. Un moment hautement politique. Mais cette fois, il aura lieu en version réduite, par crainte d'une attaque de drones ou de missiles sur la capitale russe. L'annonce de la trêve est conditionnée. Je cite, « Si le régime de Kiev tente de mettre en œuvre ses plans criminels visant à perturber les célébrations, les forces armées russes lanceront une frappe massive de missiles de représailles sur le centre de Kiev », a déclaré le ministère russe de la Défense sur Max, une messagerie russe. Moscou appelle même les civils et les diplomates étrangers à quitter la ville sans délai, sans autre explication. De l'autre côté, la réponse ne s'est fait attendre. L'Ukraine annonce également suspendre ses opérations cette nuit. « Nous agirons de manière réciproque à partir de ce moment-là », a ajouté le président ukrainien Volodymyr Zelensky. De plus, il a déclaré hier n'avoir reçu aucune demande officielle concernant une telle trêve. Il ne la juge pas sérieuse, accusant la Russie de vouloir avant tout sécuriser ses cérémonies. Et puis cette trêve n'est pas un cas isolé. Durant 3 week-ends fin avril début mai, une pause avait été annoncée à l'occasion de la Pâque orthodoxe. Mais selon Kiev, elle aurait été violée à 469 reprises par la Russie. Zelensky avait alors demandé sa prolongation sans succès. Ces trêves surviennent à un moment où les États-Unis recentrent leur attention sur le conflit au Moyen-Orient, tandis que sur le terrain, la Russie montre des signes d'essoufflement.
Et quelle est la situation en Ukraine ces dernières semaines ?
Le mois d'avril a été marqué par une intensification très nette des frappes russes en Ukraine. Le 16 avril, Odessa subit l'une des attaques les plus massives depuis le début de la guerre en 2022. Une démonstration de force qui s'accompagne d'une pression accrue sur les ports ukrainiens et les infrastructures énergétiques régulièrement prises pour cible. La Russie est aussi confrontée à des difficultés sur le terrain, des pertes importantes et un recul territorial. Selon l'armée ukrainienne, les pertes russes dépasseraient les capacités de recrutement pour le 5e mois consécutif. Le ministère ukrainien de la Défense évoque plus de 35 000 soldats tués ou grièvement blessés pour le mois d'avril. De plus, la zone contrôlée par les forces russes en Ukraine a reculé de 120 km², une situation inédite depuis la contre-offensive ukrainienne de l'été 2023. L'Ukraine affirme que les attaques à moyenne portée ont augmenté. Elles sont aujourd'hui deux fois plus nombreuses qu'en mars et quatre fois plus qu'en février.
Cette tendance devrait encore s'accentuer puisque cet après-midi, l'Union européenne lance une alliance avec l'Ukraine pour développer la production de drones. À quelques mois des élections législatives de septembre et après 4 années de guerre, le pouvoir de Poutine semble s'éroder ces dernières semaines. Les Émirats arabes unis durcissent le ton face à l'Iran. Abu Dhabi dénonce une escalade dangereuse après une nouvelle vague de frappes iraniennes hier sur son territoire. Selon les autorités, 15 missiles et 4 drones ont été interceptés, mais l'un d'eux a touché le site pétrolier de Fujairah, faisant 3 blessés. Visé à plusieurs reprises depuis le début du conflit fin février, les Émirats se réservent le droit de riposter à Téhéran. Ces frappes interviennent alors qu'un cessez-le-feu est mis en place depuis un mois dans la région. La situation sanitaire ne s'améliore pas à bord du navire néerlandais Ondius. L'OMS soupçonne une transmission interhumaine de hantavirus. De nouveaux cas ont été confirmés aujourd'hui, 5 autres restent suspectés. Bloqué au large de Cap-Vert, le bateau attend toujours de savoir où il pourra accoster. L'OMS affirme que l'Espagne a accepté de l'accueillir aux Canaries, mais Madrid ne le confirme pas. Les autorités sanitaires espagnoles veulent d'abord inspecter le navire et évaluer l'état des passagers et des passagères. C'est le premier procès depuis le scandale du périscolaire parisien. L'ancien animateur de l'école, Titon, dans le 11e arrondissement de Paris, comparaît aujourd'hui à huis clos devant le tribunal correctionnel. Nicolas G est jugé pour harcèlement sexuel sur 9 enfants de 10 ans et d'agression sexuelle sur 3 d'entre eux. L'affaire a éclaté en 2024. Plusieurs élèves de CM2 signalent des attouchements forcés et des réflexions déplacées. Depuis le début 2026, la mairie de Paris dit avoir suspendu 78 agents du périscolaire, dont 31 pour suspicion de violences sexuelles. Pour tenter de faire libérer Christophe Glaize, sa famille retire son pourvoi en cassation. Ses proches l'ont annoncé ce matin sur France Inter, espérant favoriser une grâce présidentielle en Algérie. Le collaborateur du groupe Society et SoFoot est détenu depuis juin 2025, condamné à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme. Il préparait un article sur la jeunesse sportive kabyle. Depuis sa condamnation confirmée en décembre dernier, 2 demandes de grâce présidentielle ont déjà été rejetées. Sa famille craint qu'un nouveau recours ne retarde davantage sa remise en liberté. Une occupation interdite au collège de Binquenay à Rennes. Malgré cette décision de la direction, enseignants, enseignantes et parents d'élèves maintiennent leur mobilisation ce soir devant l'établissement. Le collectif dénonce un manque de moyens face à la dégradation du climat scolaire. Violences, menaces, expulsions, plus de 740 incidents ont été recensés au premier trimestre. Les équipes estiment que ce collège classé REP accueille 650 élèves dont certains en situation de handicap ne disposent pas d'un encadrement suffisant. Le collectif réclame davantage de moyens humains, de surveillants et d'AESH dès la rentrée prochaine. Le tapis rouge de la solidarité est déroulé pour une 2e édition. L'initiative organisée par le département d'Ille-et-Vilaine met en avant des acteurs et actrices du territoire. 4 catégories représentent les différents types de solidarité entre citoyens et citoyennes. C'est vous qui allez voter, mais avant, Jean-Luc Chenu, président du conseil départemental, nous parle de cette initiative.
C'est l'aboutissement d'une réflexion que nous avions engagée, c'était en 2023, en se disant qu'il y avait beaucoup de prix, de trophées sur beaucoup de thématiques, mais que la question de la solidarité en tant que telle était très très rarement mise en valeur, en tout cas spécifiquement et avec un événement totalement dédié, alors que la question des solidarités, ça fait partie vraiment des missions essentielles d'un conseil départemental. La solidarité, contrairement à ce qu'on entend trop souvent, n'est pas une valeur du passé, c'est vraiment une valeur d'avenir et c'est même la condition pour un avenir et de la cohésion sociale dans les territoires. Alors l'idée a cheminé avec du coup un partenariat avec TVRN et puis Ouest France. On a 4 catégories. Alors il ou elle s'engage pour les autres, c'est un petit peu la notion de solidarité, de proximité, d'initiative, de convivialité. Il y a aussi souvent des actions qui présentent un caractère un petit peu vraiment d'innovation, soit sur la thématique retenue, soit sur leur mode d'organisation, les supports retenus. Donc on a une catégorie solidaire et innovant. Une catégorie avec une dimension environnementale forte, c'est solidaire pour la planète. Et puis également, nous tenions à absolument à ce qu'il y ait une catégorie plus spécifiquement dédiée à des initiatives portées par des jeunes. Et puis, dans les semaines qui viennent, eh bien, il est engagé un vote. Tout le monde en Ille-et-Vilaine peut voter. C'est du 25 avril au 20 mai. Donc, il y a une plateforme sur westfrance.fr dédiée à l'événement. La dernière étape, ce sera le 28 mai avec une réception dans le parc du conseil départemental, un enregistrement par TV Rennes et toute une série de rediffusions à différents moments dans la semaine qui suit. Et puis une restitution par Ouest France, bien sûr.
Il est possible de voter jusqu'au 20 mai sur le site de Ouest France. À la clé pour les gagnants et gagnantes, un trophée œuvre d'art. Il sera en verre soufflé et produit par l'artisane Martine Durand-Gasselin. L'année universitaire touche à sa fin et pour la clôturer, l'université Rennes 2 invite ses étudiants et ses étudiantes au même à Rennes pour une grande soirée concert. Au programme, la fanfare étudiante Braise Ball et son répertoire éclectique de reprises allant de Théodora à Deluxe. Braise, champion de France de live looping aux sonorités hip-hop, électro et afro. La DJ rennaise Flype entre art style et art techno. Green Lads pour un show électro-celtique immersif mêlant son et lumière, et enfin la chanteuse pop Iris 2000. C'est ce mercredi 6 mai à 18h au même. Les réservations se font sur le site de l'Université de Rennes 2.
Merci Romane, vous ne vous êtes pas rendu compte derrière le poste de tous les couacs qu'il y a eu pendant ce flash, c'est parce que c'est une professionnelle, c'était son ultime flash. Merci Romane.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
C'est l'heure de l'interview avec Léonore.
HypeUp, c'est l'appli qui vous permet d'être au courant de tous les événements rennais. Si vous vous demandez pourquoi vous ne l'avez pas déjà, c'est parce qu'elle sort jeudi. Pour l'occasion, nous avons le plaisir d'accueillir les cofondateurs de la plateforme pour qu'ils nous en parlent en avant-première. Mathéo Bouvier, développeur de l'application, et Antoine Omnes, responsable commercial, tous les deux en t-shirt blanc et jean bleu, sont avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Je le rappelle, donc HypeUp, c'est une application rennaise qui recense toutes les activités et tous les événements de la ville. Pourquoi avoir voulu créer cette application ?
Ok, bah, c'est très simple. On est tous les deux originaires de Rennes. On a grandi dans la ville et en fait, on se devait de lui rendre l'appareil. On est très curieux et on se rendait compte qu'on passait souvent à côté de ce qui pouvait nous intéresser. Souvent, on regardait le journal le lendemain, on se rendait compte qu'il y avait une course de caisse à savon qu'on avait ratée. On aurait pu y aller, on se faisait chier le samedi. Mais pareil, pour tout ce qui se passe en ville, que ce soit des concerts, des karaokés, et en fait, à moins d'être sur toutes les plateformes en même temps, ce qui est littéralement impossible, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai manque de centralisation de tous les événements qui se passent à Rennes.
Et petite question, curiosité, d'où est-ce qu'il vient ce nom, HypeUp ?
Ouais.
Avec celui-là, on en a beaucoup parlé. Et bah, il vient d'un ami à nous.
Ouais.
Il vient d'un ami à nous qui s'appelle Kiran. Et on cherchait un nom, on ne savait pas trop quelle vibe donner à l'application. Et un jour, il nous a amené ça, il nous a fait une petite présentation sur HypeUp, les gars, c'est un mélange de la hype, on va chauffer les gens vers le haut, on va chauffer les gens à sortir, quoi.
Ouais,
du coup, ça a mélangé warm-up, HypeUp, hip-hop, c'est un mélange de tout ça. Et
même la hype, c'est, dans la culture populaire, c'est l'excitation. Et en fait, les gens, s'ils partagent cette curiosité d'aller découvrir les événements, ils seront un peu comme nous, excités d'aller découvrir tout ce qui se passe à Rennes.
Et on repasse sur un volet un peu plus technique de l'application. Comment est-ce qu'elle s'est déroulée la phase de développement ?
Alors, la phase de développement a été très longue parce que, pour tout dire, ça fait 3 ans maintenant qu'on est sur l'application. Et on l'a commencé, du coup,
2022.
En fin 2022. On a créé une entreprise début 2023. Et on a pris un premier salarié. J'avais 20 ans, encore en BTS. Et parce qu'on ne connaissait pas du tout le monde de l'informatique, quoi. Donc on a pris un développeur en alternance pour qu'il nous développe l'application. Ça n'a pas trop marché, donc on a essayé de changer de stratégie. Je me suis mis au développement, j'ai commencé à apprendre à coder. Et notre alternant est parti, lui, sur la partie web. Et ça ne l'a pas fait non plus. Donc on a pris un petit peu de temps à évoluer, on a changé de développeur. Et depuis maintenant 1 an et demi, on développe à fond avec notre nouveau développeur. Et ça se passe vraiment bien. Et aujourd'hui, ça y est, on lance l'application après avoir fait une phase test début de l'année dernière et qui a plutôt bien marché.
Le modèle était différent. En réalité, on s'occupait de choisir les événements et on les apportait nous-mêmes sur l'application. Donc à peu près 20 par jour, Mathéo et moi. Et on s'est rendu compte que c'était très chronophage et on communiquait mal sur les événements. Donc en fait, on a changé de modèle et aujourd'hui, ça va être majoritairement les annonceurs qui vont publier leurs événements.
Et si aujourd'hui j'installe iPub et que j'ouvre l'application, est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que je vois sur l'interface et comment est-ce que je m'en sers ?
Ouais, bah alors ça va être très simple. En fait, le but de l'application, c'est d'avoir un accès rapide, simple et très visuel à tout ce qui peut se passer autour de soi. Donc ça se passe sous une forme de fil d'actualité chronologique, donc aujourd'hui, demain, plus tard dans la semaine, avec une possibilité de filtrer ces événements par catégorie. On s'est organisé de la façon à faire une catégorie musique, spectacle, activité, shopping. Et à côté de ça, on pourra regarder si on veut des événements gratuits ou payants, en fonction des prix, des budgets, et quel jour on veut directement sortir. Si on veut sortir le week-end, on pourra le faire simplement. Et une possibilité, c'est de choisir si on veut regarder une map sur la carte. Donc en fait, tout ce qui se passe autour de soi sera disponible sur l'application. Avec soit, par exemple, les verres, pour aller prendre un verre dans les bars, on aura les statistiques ou plutôt les informations de ces bars-là qui sont en relation avec nous et les événements qu'ils proposent.
Et comment est-ce que vous l'avez conçu cette interface ? J'imagine qu'il y a des codes peut-être à respecter ?
Alors ouais, ça c'est plutôt ma partie, la partie un peu plus technique. Donc ouais, la conception de l'interface, c'est pas si évident que ça. Quand on regarde une application, on se dit bah, c'est super facile parce que bah, ça a été bien pensé. Et toute l'idée, c'est de faire quelque chose d'être très harmonieux, très aéré et à la fois qu'il y ait beaucoup d'informations. L'idée qu'on a dans l'objectif final, c'est vraiment en un coup d'œil, tu te rends directement compte de quelle est la vibe de l'événement, ce que tu vas y faire et bah, quel type d'événement c'est, quoi. Et tout ça, bah, ça passe par la couleur, par la mise en forme, par tout l'UX, on appelle ça, sur l'application, donc l'expérience utilisateur. Et donc tout ça, bah, ça se conçoit au fur et à mesure. On essaye, on met des blocs à des endroits, on voit que ça fait trop cafouillis, on les arrondit un petit peu, on essaye de les aérer, les espacer. Et puis, bah, au fur et à mesure, on trouve quelque chose de sympa, on regarde un petit peu ce que font les autres, on prend ce qu'on aime bien, on enlève ce qu'on aime moins, on adapte. Et puis au final, bah, on arrive à faire quelque chose de sympa. Et puis bah, aussi, on développe beaucoup avec bah, les utilisateurs directement. On a beaucoup de retours, donc avec ça, bah, on développe en fonction. Par exemple, la map nous a été beaucoup demandée. Au début, on avait un simple fil d'actualité et on nous a dit mais ce serait génial d'avoir une map pour voir tout ce qui se passe. Comme ça, directement, bah, hop, je suis dans un bar à Rennes. Là, il est 20h. Qu'est-ce que je peux faire après ? Oh, bah, à 21h, il y a un concert dans un petit bar. Hop, je vois que c'est à côté. Et let's go. Et donc ça, bah, ça se développe au fur et à mesure à l'utilisation, quoi.
Et justement, en parlant d'utilisateurs, l'application, elle cible un public en particulier ou c'est pour tous les Rennais et toutes les Rennaises ?
Ça, c'est vraiment la question qu'on nous pose souvent et bah, on ne sait pas trop répondre parce que l'application convient à tous, mais on ne peut pas commencer comme ça. Donc au début, c'est vrai qu'on cible un petit peu on cible plutôt les bars et les étudiants, donc pour aller plutôt dans les concerts, dans les activités un petit peu autres. Et aujourd'hui, c'est vrai que le phénomène change un petit peu dans les sorties de jeunes, c'est qu'on sort plus pour aller faire des activités que pour aller boire des verres. Et ça, c'est vrai qu'on le constate beaucoup plus. Et autre chose, c'est que bah, en faisant le test début d'année dernière, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de mamans qui utilisaient l'application et beaucoup de personnes qui cherchaient où sortir avec leurs enfants. Donc c'est vrai que ça parle un petit peu à tout le monde, mais dans les débuts, on essaye de cibler un petit peu plus les étudiants. C'est vrai que l'application va s'ouvrir très rapidement à toute persona.
À terme, en fait, on aimerait bien que le Rennais type puisse s'occuper du lundi matin au dimanche soir. Donc ce ne serait pas spécialement des soirées ou des activités festives comme on l'entend parler. On peut très bien aller chercher du cours de yoga en espagnol ou vraiment des trucs très loufoques, mais qui peuvent intéresser, comme nous, je pense, une grande partie de la population rennaise. Et donc non, on n'a pas vraiment un public cible, et c'est pour ça que l'application a été designée d'ailleurs par Mathéo, c'est que j'ai montré à ma grand-mère et elle a trouvé ça très, très fluide et compréhensible. Donc l'idée, c'est de pouvoir que tout le monde aille dessus et trouve son bonheur.
C'est vrai que les grand-mères sont des bonnes bêta-testeuses.
Et en termes d'événements, donc vous nous l'avez dit, il y a plusieurs catégories. Mm-hmm. C'est aux personnes de vous contacter ou vous... Enfin, pour...
Ouais.
Comment est-ce qu'on renseigne, comment est-ce qu'on fait en référence les événements ? Alors c'est nous notre principe, on part du principe que personne ne parle mieux des événements que les organisateurs eux-mêmes. Donc pour répondre à ça, bah on a décidé d'ouvrir des comptes professionnels qui sont 100% gratuits et il suffit juste de faire sa demande de compte, nous on certifie. Et à partir du moment où on a certifié ce compte-là, et bah, tu peux publier tes événements autant que tu veux et c'est comme ça qu'on obtient tous les événements. Aujourd'hui, vu que c'est le lancement, on fait un petit peu de scrapping, on appelle ça. Donc on va chercher des événements, on va fouiller comme ce qu'on faisait avant. Et au fur et à mesure, et bah, on délègue le travail aux organisateurs eux-mêmes. Et donc aujourd'hui, bah, on a une... Je sais plus, on a...
Une base de 50...
50 ou 60aine de bars qui nous suivent à Rennes. Et d'autres organisateurs. Et donc bah, c'est vraiment cool, on a plein de retours aussi de leur part. Et c'est vraiment eux qui vont alimenter l'application.
Et en termes d'algorithme, quand on arrive sur l'application, il y a des fonctions de préférence qui vont nous montrer des choses qui correspondent à nos goûts ou c'est à nous d'aller chercher
Alors ça bah, c'est aussi l'un des problèmes qu'on a détecté sur d'autres applications et tous les systèmes d'algorithmes aujourd'hui. C'est que bah, plus on aime quelque chose, plus il va nous être recommandé. Nous, ce qu'on veut, au contraire, c'est pouvoir explorer tout ce qu'on ne connaît pas, en fait. C'est pouvoir découvrir. Et pour ça, on fait on n'a pas d'algorithme préférentiel, voilà. On met vraiment en avant les événements les plus populaires, donc ceux où il y a le plus de monde qui y vont, et par journée. C'est-à-dire que quand tu regardes l'application, tu tombes directement sur les événements d'aujourd'hui. Si tu continues à scroller, tu tombes sur les événements de demain, etc., etc. Ils sont d'abord triés par popularité pour voir où est-ce que les Rennais sortent, tout ça. Et ensuite, bah, c'est simplement par date.
Et est-ce que vous pensez que votre application, elle peut influencer d'une certaine manière la scène culturelle rennaise ?
Je pense dans le bon sens. Aujourd'hui, on arrive à un moment où les habitudes changent. Et ça, on l'a remarqué en ayant communiqué avec justement ceux qui postaient les événements sur Facebook. Beaucoup de patrons de bars, des gérants. Et en fait, ils se rendaient compte que Facebook, c'est de moins en moins utilisé, ce qui paraît évident. En tout cas pour des gens de notre génération. Et les habitudes changent. Et en fait, les personnes qui cherchaient par exemple des soirées très spécifiques, on se perd rapidement dans le flux de Facebook qui n'était pas trié. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, on va pouvoir mettre en valeur des événements qui avaient un petit peu disparu de la circulation. Et en fait, là, comme nous, on n'a pas vraiment
de filtre voilà. D'événements qu'on a de tout type. Et oui, ce qu'on espère vraiment, c'est bah, voir les gens au bar sortir l'application, puis se dire, qu'est-ce qu'on fait après ? Tiens, on va faire un cours de yoga en espagnol, ou alors totalement autre chose. Il y a des courses de caisse à savon qui se passent ce soir, on ne sait pas pourquoi. On découvre qu'il y a ça, ou alors on prévoit son planning de ce week-end parce qu'on a trouvé un événement totalement insolite. Des combats de chevaliers dans je ne sais quelle rue à Rennes. Ça peut être toutes sortes de choses. Et l'idée, ce n'est pas simplement d'être une application qui référence seulement des concerts, mais vraiment tout ce qui va faire sortir bah, les Rennais. Quoi.
Je pense que le personne type, si elle est un peu curieux ou curieuse, va se plaire avec l'application, parce qu'en fait, comme Mathéo l'a dit, il y aura tout type d'événements. Et par exemple, si un événement, en fait, au lieu de publier sur son Instagram, où là, on va toucher son audience habituelle, là, ça va être le Rennais type qui veut sortir, qui veut découvrir. Il va tomber sur l'annonce sans s'être abonné, sans l'avoir en réalité, s'être abonné et savoir qu'on va chercher ça.
Il va découvrir, il va dénicher, quoi.
Ok, et est-ce que vous pensez que HypeUp, c'est un plus pour se démarquer des autres plateformes comme les agendas culturels, par exemple ?
Ouais, carrément. Bah, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'agendas. On ne travaille pas avec eux, mais c'est vrai qu'on regarde beaucoup ce qu'ils font. Et bah, ce qu'on voit, c'est qu'il y a pas mal d'événements qui sont un petit peu cafouillis dessus. Et bah, moi, j'aime bien, en tout cas, quand je sors, avoir simplement en un clic toutes les informations que je cherche, ne pas avoir à rechercher tel ou tel agenda sur Google, regarder telle ou telle application pour tel type d'événement. Là vraiment, on essaye d'avoir un espèce d'application rêve qui nous dit... Bah, tiens, regarde, il y a tout ça, ça se passe à Rennes maintenant, tout ça, ça se passe à Rennes demain. Donc c'est ouais, le plus qu'on peut apporter.
Et l'intérêt d'HypeUp aussi, c'est une application gratuite. Comment est-ce que vous faites pour que le modèle économique il soit viable sans trop que ça impacte l'expérience des utilisateurs ?
Alors les utilisateurs, ce sera 100% gratuit pour eux, bien évidemment. Et les annonceurs aussi, parce qu'on cherche à avoir un maximum d'informations d'événements. Derrière, c'est une grande question, comment est-ce qu'on se finance ? Et bien c'est avec de la pub. En fait, on va essayer de placer des pubs dans les fils d'actualité et de cibler les pubs d'événements. C'est-à-dire que bah, demain, un bar propose un événement quelconque et décide de vouloir le promouvoir plus que les autres. Il peut nous contacter, nous dire eh bah, « Les gars, j'ai tant de budget pour faire connaître mon événement et le mettre par-dessus les autres. » Et donc bah, nous, avec ce budget-là, on va faire en sorte qu'il soit vu. Donc plus il y a de clics, plus ça rapporte, plus ça lui rapporte du monde, plus il y a de likes, etc. Et l'idée, c'est pas non plus de rendre ça cafouillis comme on voit sur plein d'applications. On cherche à faire quelque chose de très ergonomique et très agréable. C'est-à-dire que dans l'idée, c'est qu'on soit vraiment super content de voir une pub.
Ok, et le lancement, bah justement, on le rappelle, c'est jeudi 7 mai. Pour finir, est-ce que vous avez peut-être l'objectif de faire évoluer l'application pour qu'elle s'applique à d'autres villes que Rennes ?
Ah oui, carrément.
Ouais, avant ça, il y a quand même beaucoup de chemin. parce que je pense qu'on n'a pas inventé l'eau chaude non plus. Et il y a déjà des applications qui font le même travail à Bordeaux, à Paris. Et ces grandes applications-là, elles sont aussi implantées à Rennes. La grande différence, c'est qu'ils vont présenter trois événements par nuit, pas forcément des événements de jour. Et je pense que bah, nous, on a à cœur de mettre en valeur ce qui se passe à Rennes, qu'on veut vraiment pouvoir se sentir fort et avoir tout ce qui se passe à Rennes avant de pouvoir changer de ville. Et ça, ça peut prendre énormément de temps parce que ça va être beaucoup de bouche à oreille, que les annonceurs viennent petit à petit. On fait déjà ce travail d'aller visiter les gérants tous les jours, mais il y a 180 bars, je ne sais pas combien d'annonceurs à Rennes, donc d'ici à ce qu'on les ait tous. Ouais.
Il y a de quoi faire à Rennes.
Ouais. C'est ça.
Mais oui, en effet, on aimerait pouvoir se développer, pouvoir se dire bah, qu'est-ce qui se passe à Saint-Malo ce week-end. Là, on est à Rennes, on voit tout ce qui se passe à Saint-Malo. Ou alors, bah, tiens, je vais à Bordeaux, je connais pas Bordeaux, qu'est-ce qu'on fait à Bordeaux ? Et bah, là, il suffirait de simplement ouvrir l'application et on a notre panel d'activités et d'événements sur Bordeaux.
Très bien, bah, une super perspective en tout cas. Merci beaucoup Mathéo Bouvier et Antoine Honnès d'être venus nous présenter Hype Up.
Et bah, merci à vous.
Pour ne plus jamais manquer aucune course de caisse à savon, aucun atelier radiophonique organisé par SILAB peut-être.
Et avec plaisir.
On pourra en discuter en antenne.
6h avant minuit.
C'est mardi, c'est l'heure de la chronique fake news. Aujourd'hui, on parle de Pascal Pro qui diffuse une fausse une du magazine Closer en direct sur CNews. Ça s'est passé hier matin dans l'heure des pros et Léonore nous en parle.
Et oui, en effet, l'un des animateurs vedettes de la bolosphère a fait réagir ses chroniqueurs en plateau, mais sur une couverture créée par l'IA. Le hic, elle a été présentée comme complètement authentique. Sur le plateau, certains ont eu des doutes, mais Pascal Pro a rassuré sur la fiabilité de cette une.
Et cette soi-disant couverture, qu'est-ce qu'elle montre ?
Alors sur l'image, on retrouve côte à côte et souriante Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, et Najah Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation et présidente de France Terre d'Asile. Elles portent toutes les deux un ensemble en jean bleu clair, une tenue inhabituelle que Pascal Pro souligne d'ailleurs, sans plus se poser de questions. Cette fausse couverture sert ensuite à animer le débat. La discussion s'oriente rapidement autour du rôle politique de Yael Braun-Pivet. Un des chroniqueurs s'appuie sur la couverture pour assurer l'envie de la présidente de l'Assemblée nationale de dire, je cite, « Regardez, je suis un peu de gauche ».
Est-ce qu'on a des pistes de l'origine de cette fake news ?
Alors, si on sait que la couverture a été largement relayée sur les réseaux sociaux, l'auteur n'est pas pour l'instant connu. Selon une source de l'AFP proche de Yael Braun-Pivet, les deux femmes auraient été photographiées ensemble mercredi dernier. C'était à l'occasion de la projection du film « Woman » d'Anastasia Mikova et Yann Arthus Bertrand. Il serait donc possible que l'image générée par l'IA soit inspirée de ce cliché. Par contre, contrairement à ce qui est présenté sur la fausse une de Closer, pour l'événement, Yael Braun-Pivet était vêtue d'un tailleur pantalon.
Comment réagissent les personnes concernées ?
Yael Braun-Pivet a pris la parole dans une vidéo publiée sur ses réseaux l'après-midi de l'émission et elle dit cela.
Aujourd'hui, la frontière entre le vrai et le faux n'a jamais été aussi fragile. Alors dans ce contexte, la responsabilité des médias est immense. Informer, ce n'est pas que relayer. Informer, c'est vérifier. Face à la désinformation, soyons tous responsables, soyons tous vigilants.
Elle a également décidé de saisir l'ARCOM, l'instance qui régule l'audiovisuel français. Pascal Pro, lui, s'est excusé sur X, prononçant son mea culpa.
Est-ce que c'est la première fois que CNews relaye des fake news ?
Eh bien non, et c'est justement ce qui pose encore plus problème. Le travail journalistique repose sur la vérification des sources, et encore une fois, elle n'a pas été faite correctement. Si ici l'affaire est politique, le constat est partout. On peut prendre l'exemple de l'écologie. L'Observatoire des médias sur l'écologie a recensé 665 cas de désinformation climatique en 2025. Parmi les chaînes les plus concernés, on retrouve celles proches des sphères d'extrême droite. Parmi celles-ci, CNews est sans surprise parmi les plus touchées.
Merci Léonore. Sur notre répondeur, aucune infox. Le téléphone.
Téléphone.
Allô, allô.
SILAB, la radio sauvage.
Oui, bonjour, c'est Annie, une de vos aficionadas.
En fait, hier, je vous ai écouté avec beaucoup de plaisir et j'ai commencé à entendre les mots « dernière » et j'ai eu un pincement au cœur. Je me dis « oh non, c'est pas possible ». Alors, je vous souhaite une belle dernière ligne droite à vous trois et puis à Héloïse avec vous, qui, elle, va continuer aussi. Et donc, je vais vous regretter. Puisque comment je vais corriger, moi, mes copies, si vous n'êtes plus là, tout en vous écoutant. Mais en tout cas, je vous souhaite une belle dernière ligne droite. Je serai toujours là, jusqu'au bout, pour vous écouter. Et puis, à très bientôt. Ciao!
Ciao! Merci, Annie. On prépare une émission très spéciale le 13 mai pour marquer le coup et puis pour se dire au revoir. Donc, ne manquez pas ça, chers auditeurs et auditrices. Et puis, si vous voulez nous laisser un message vocal, dites-nous ce que vous avez sur le cœur. Si vous voulez dire aussi un petit mot à nos chers volontaires en service civique qui finissent bientôt leur mission, n'hésitez pas, 02 30 96 25 35. Merci Lisa pour la technique et à demain dans 6 heures avant minuit.
Si. La radio sauvage.
Et le rythme.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit. 18h, 19h sur Syllabe,
la radio sauvage.